Marchal.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui notre trio Elina Dumont, intervenante sociale, qui nous parlera du nettoyage social à Paris là dans un quart d'heure. Nous sommes avec Didier Giraud, qui est éleveur de bovins en Saône-et-Loire, il est agriculteur, et Zora Bitton, cadre de la fonction publique. On va évoquer l'affaire Kenji Girac.
RMC, les grandes gueules.
Oui, c'est une affaire qui a encore beaucoup de zones d'ombre, dont on a du mal à cerner tous les tenants et les aboutissants. Il y a un homme qui est blessé, qui a été grièvement blessé, qui a été opéré, qui est en train de se remettre. C'est l'un des chanteurs les plus populaires de France. Dès qu'il part en tournée, il remplit les zéniths. Kenji Girac, il a vendu plusieurs millions d'albums. Écoutez notamment ce qu'en dit Joseph Gauthier. Il est membre de Chico et les Gypsies. C'est un ami de Kenji. Quand on lui parlait de « Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Pourquoi est-ce qu'il avait une arme ?» Voilà ce que disait Joseph Chico et les Gypsies.
Je pense que tous, on collectionne tous plus ou moins des armes. Et on aime bien tout ce qui est la pêche, tout ce qui touche les armes, on a toujours aimé ça. Mais c'est pas pour autant que Kenji manipulait les armes. Je pense qu'on a tous manipulé des armes un jour dans notre vie. Et oui. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé.
Voilà, c'est là, ce qu'il dit, c'est voilà, nous les gypsies, les gitans, on a tous grandi avec des armes, manipulé des armes. C'est ce qu'il dit. Ce qui concerne Kenji Girac, est-ce qu'il s'est blessé en la manipulant ou pas? La question n'est pas résolue encore.
En tout cas, cette thèse n'est pas contredite pour l'instant. Le fait que Kenji, qui n'a pas encore été auditionné officiellement parce qu'il est blessé, il n'est pas en état de le faire, mais il a quand même parlé assez rapidement. Il a tout de suite dit qu'il s'était tiré dessus tout seul, accidentellement. Cette thèse, elle n'est pas contredite. Ce qu'on sait, alors il faut être prudent parce qu'en fonction des médias, mais a priori, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé dans sa caravane et que c'est là que le coup est parti. Était-il seul? Était-il accompagné de sa femme, puisqu'il avait passé la soirée au casino avec sa femme avant? La question n'est pas encore déterminée. Enfin, la réponse, on l'a pas encore. Ce qu'on sait aussi, c'est que, et ça, c'est vrai que c'était un peu surprenant, c'est que l'arme avait disparu, qu'elle a été retrouvée. Et l'arme avait disparu, et on a appris que l'arme avait été retrouvée dans un buisson. Au départ, on disait que le chargeur est introuvable, et selon BFM TV, c'est une nouveauté aujourd'hui, on peut dire que le chargeur a aussi été retrouvé, et qu'il manque une cartouche dans le chargeur. Alors, pourquoi l'arme, si c'est accidentel, ne se trouvait pas au chevet, enfin au pied de Kenji Girac, mais dans un buisson? Ça veut dire que cette arme a été déplacée, sans doute par les proches. Et puis à un moment donné, ses proches ont indiqué aux gendarmes où elle se trouvait. Donc qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? Puisque la version officielle, c'est que cette arme aurait été achetée dans une brocante la veille.
Ce qui est énorme.
Ce qui paraît un peu peu probable, c'est ce que disent en tout cas les spécialistes. Mais pour l'instant, en tout cas, la thèse de l'accident est toujours valable.
Didier?
Bah déjà, dire aux membres des gypsies que moi je vais à la pêche, mais j'y vais jamais avec un 11 mm. Hein. Voilà, je vous explique qu'ils pêchent avec des armes à feu. Ce qui est sûr, c'est que la thèse évoquée par Kenji au début, elle tient pas. Elle tient pas. Et moi, il y a deux éléments qui m'interrogent. Alors, un, c'est que l'arme a été déplacée, qu'elle a été retrouvée sur des indications des proches dans un buisson environnant. Puis après, il y a un truc qui m'emmerde hein, sur le fond. C'est que ils ont déménagé le campement, quoi.
Mmh.
À un moment donné,
celui de Biscarros.
Non, mais attends, il y a chez toi un mec qui se tire soi-disant une balle en manipulant une arme. Ta baraque, elle est figée. Tu peux plus y rentrer, tu peux pas la déménager, quoi. Eux, ils ont déménagé le campement dans la journée d'hier. Et ça me pose quand même un problème dans l'équité que la justice met à figer cette scène de crime, quoi. Hein. Moi, ça me pose un vrai problème, ça. Après, derrière ça, ce qui est évident, c'est que ouais, la version qu'il a racontée, c'est pas la bonne. Et du coup, ces éléments-là, mis bout à bout, font que je vais m'abstenir de tirer des conclusions avant que la justice ne le fasse, quoi. Hein, parce que j'en sais rien.
Alors,
quoi.
Moi, depuis que je suis petite, je l'ai déjà raconté ici. D'ailleurs, c'était chez eux que j'allais me réfugier. J'ai toujours adoré les gens du voyage. Genre, j'aime leur musique et tout. Enfin, bref. Mais souvent, vous savez, aux grandes gueules, on dit toujours, dans les banlieues, c'est des zones de non-droit et tout. Ben, je peux vous affirmer que dans les communautés des gens du voyage, on n'y rentre pas comme ça. Et là, moi, j'irais plus que là.
Est-ce que c'est bien rassurant?
Non, mais même les gendarmes, Olivier, ils l'ont dit à BFM, même les gendarmes, ils ont été très mal accueillis. Il n'y a que les pompiers qui ont vraiment pu... Ça, c'est vrai. Hein, attends, c'est...
Intervenir, oui.
Et c'est vrai que un principe, une arme, ça se déclare. Et c'est vrai que chez les gens du voyage, voilà, c'est tout le monde le sait. Moi, je découvre pas un truc, quoi. Mais ça se déclare, par contre, une arme. Et attends, moi qui adore les brocantes, j'ai du mal à croire qu'il a trouvé l'arme sur la brocante. Ou alors, c'est une arme sous le manteau. Hein.
C'est la dark brocante.
Non, mais parce que moi, j'adore les brocantes. Tu sais bien, j'adore les bouis-bouis et tout ça, moi, Alain. Non, j'y crois pas. Je te dis, ou alors c'était sous le manteau.
Zora,
quoi l'avoir caché? Moi, j'avoue que je sais pas trop quoi penser de cette histoire. Oui, parce que je pense que les Gitans sont des communautés qu'on connaît, nous aussi, avec Yves et surtout mon mari qui connaît bien, parce que ce sont des communautés qu'il a, comme Elina, était très proche et fréquentée, et pour qui il a beaucoup d'affection. Il y a des codes d'honneur et il y a des silences qui font partie de leur code d'honneur. Et qu'il se soit tiré dessus ou qu'on lui ait tiré dessus, de toute façon, il y a des codes qui ne se transgressent pas, quels que soient les sujets. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, la suite de l'enquête, c'est l'arme qui va parler. Parce que dire qu'on achète une arme dans une brocante, c'est pas très malin. Première chose. Et deuxième chose, il va être peut-être vérifié est-ce que cette arme a servi par ailleurs, quelque part. Donc,
La trajectoire de la balle.
Donc,
la balle vient de cette
donc,
arme.
Moi, j'ai lu un très joli portrait de Kenji Girac il y a quelque temps dans Le Parisien, et vous pourrez le retrouver, où justement il fait part dans cet article de tensions au sein de la communauté, où il dit que c'est pas simple, que son ascension suscite quand même des jalousies, que bon voilà, il tente à garder des liens, mais que quelque part il, comme il est un peu sorti de cette communauté grâce à j'allais dire à son succès et à sa trajectoire, et ben dans la communauté ça suscite un peu de tension. Ça veut pas dire qu'il en est parti, mais voilà, c'est quand même il se passe des choses, et dans toute communauté comme ça très resserrée, un peu à l'abri des regards, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il y a toujours des codes qui leur sont propres, et je pense que c'est un peu ça. Donc maintenant, moi j'ai pas de réponse, mais j'ai une question. Si jamais il n'y a pas de plainte, est-ce que l'État, lui, peut se saisir, porter plainte? Si on met la thèse de l'accident en doute, est-ce que l'État peut se porter partie civile et porter plainte? J'en sais rien.
Est-ce que le parquet peut mettre en doute et saisir l'affaire?
Oui.
Après, pardon, mais s'il a tenté de se suicider, c'est pas...
Mais oui, c'est ce que j'allais dire.
Il n'y aura pas de poursuite. Si c'est un accident... ça le regarde, sauf il faut quand même savoir d'où vient cette arme, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir d'armes, hein, c'est interdit.
Quoi, cette arme, c'est déplacé.
Sinon, il faut avoir un permis, enfin bon, c'est, même quand on est dans cette communauté, il y a des règles, il faut les respecter.
Et après, je rappelle quand même
que l'enquête est ouverte assez large, puisque c'est pour homicide volontaire. Donc la piste de quelqu'un qui a voulu du mal à Kenji Girac n'est pas non plus écartée.
Non.
Même si pour l'instant, la thèse qui est toujours la plus probable, puisque c'est ce qu'il a dit lui, et c'est ce que disent a priori les témoins, c'est un accident.
C'est ça. Et en fait, est-ce qu'on va vraiment un jour savoir ce qui s'est passé si personne ne parle, sauf si l'enquête détermine à la fois la provenance de l'arme et que quelque part on arrive à prouver que finalement c'est pas lui qui a pu se tirer dessus même accidentellement. Il y a que ces deux éléments là qui peuvent faire donner un dénouement, une conclusion à ce qui s'est passé, parce que ils parleront pas, je pense qu'ils parleront.
L'analyse balistique, voilà. L'analyse toxicologique aussi, dans quel état était-il au moment des faits.
Ouais. Mais en même temps, si lui maintient que c'est un accident, c'est compliqué dans une communauté, même quand on en est sorti, de transgresser les règles.
C'est vrai.
C'est pas simple.
Communauté, quoi. Il y a l'omerta, c'est compliqué.
Mais oui, il y a l'omerta.
L'affaire Dominici, il y a eu un procès, il y a eu un appel, il y a eu.
Mais on a jamais. Il y a eu un film aussi.
Il y a eu un film, mais on n'a jamais vraiment su, quoi. Enfin,
mais oui.
Tout le monde a sa propre conviction, mais tu sauras jamais. Et ce que je pense, c'est que s'il y a un mensonge là-dessous, et vraisemblablement, il y a un mensonge, parce que ce pistolet, il s'est pas déplacé tout seul.
Peut-être pas.
Peut-être qu'ils ont caché le pistolet parce que ce pistolet n'avait rien
pas quoi
rien
faire.
Rien
voilà.
Et voilà. Et puis ensuite, ils l'ont ramené.
Peut-être que c'est juste la question du pistolet.
Et puis,
c'est la question de l'arme.
Dit parce qu'il y a plein d'autres armes qui ne sont pas déclarées non plus.
Mais oui.
Non, mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'on les laisse faire, quoi.
Quand on trouve que le pistolet dans un buisson n'invalide pas l'idée que c'est un accident.
Mais oui. C'est la peur, la peur et le fait de se retrouver à devoir justifier de la possession d'une arme suffit à avoir effrayé et de se dire
un mauvais réflexe. Voilà, lancer l'arme, on la rend parce que
et ça peut être que ça finalement. Ça peut être que ça. En fait, moi, de toute façon, quand je l'ai su, j'étais vraiment triste parce que je me suis dit, c'est un sacré artiste et c'est quelqu'un vraiment.
Il est sorti d'affaire.
Voilà, parce que vraiment dans le panorama français des artistes de cette génération, on peut dire que Kenji Girac, c'est quelqu'un qu'occupe une place plutôt importante et sur toutes les générations d'ailleurs.
Oui, et puis un beau parcours.
Et il a un très beau parcours d'ailleurs quand on voit un petit peu comment il a fait ce parcours d'ascenseur social par son talent, c'est vraiment beau quoi.
Tu sais quand il y a même dans les cercles familiaux quand il y a un enfant qui disparaît ou tu vois dès que c'est
intrafamilial, il y a protection.
Comme par hasard, on n'arrive plus à trouver.
Mais ça
arrive souvent.
Le petit Émile.
Mais voilà.
Oui, par exemple.
Mais oui.
L'affaire Grégory, pareil. Oui. En fait,
dès que c'est communautaire, familial, intrafamilial, etc., c'est tout de suite. Mais c'est un peu logique en même temps. C'est un peu logique. On parle de communauté des gitans.
Qu'on veut cacher des choses.
Oui, voilà. Mais t'as raison. C'est peut-être la peur de se dire, mais comment on va justifier de posséder une arme?
Oui.
Rien que ça suffit à la cacher. Après, parce que t'appelles la police.
Surtout si on raconte qu'on l'a acheté dans une brocante.
Ouais, à qui tu l'as acheté après?
Oui. Et là.
Oui, surtout que pour le moment, visiblement, le brocanteur, la thèse de Buch, c'est pas New York. Je pense que la thèse de Buch, tu dois pouvoir arriver à le retrouver assez facilement.
Non, mais en plus
qu'à
l'idée, enfin, moi, je parcours beaucoup les brocantes, ça ne viendrait pas l'idée d'acheter une arme, même si elle est devant moi.
Ça me paraît bizarre, moi, de toute façon.
Même quelque chose qui date de 100 ans.
Dans le scénario de c'est ce qui paraît le plus improbable.
Mais oui. Parce que tu peux décemment pas dire que tu l'as possédé parce que tu l'as acheté en trafic illégal et que déjà rien que ça
ou alors
du point
c'est
de vue pénal,
de camion, on va savoir tu vois.
Allez, dans un instant avec les GG, avec les grandes gueules, le nettoyage social. Est-ce que vous en êtes témoin de ce qu'on appelle le nettoyage social, c'est-à-dire qu'à Paris, avec à l'approche des Jeux Olympiques, vous savez, on veut faire place nette, on ne veut pas voir la misère sociale. On doit libérer de l'espace, on doit libérer aussi des locaux, on doit libérer des hôtels et cacher la misère. Le nettoyage social à Paris, c'est Elina Dumont qui en est témoin. Venez en parler avec nous au 32-16. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discuter et débattre avec les GG, c'est au 32-16 que ça se passe, notamment pour évoquer le nettoyage social à Paris dans la perspective des Jeux Olympiques.
RMC, les grandes gueules.
Oui, parce que ces Jeux Olympiques approchent, ça démarre le 26 juillet, je vous le rappelle, donc vous faites le calcul, 26 avril, on approche fin avril, mai, juin, juillet, et il faut que tout se mette en place à Paris. Quand j'ai tout se mettre en place au niveau des infrastructures, au niveau de la circulation, au niveau des hébergements, des logements, et surtout de l'image que va renvoyer la capitale.
On en parlait la semaine dernière, des maires en province avaient constaté l'arrivée de migrants, de SDF, de personnes en difficulté venues de Paris dans des cars, et qu'il faut installer à Besançon ou ailleurs, trouver des logements, etc. Là, dernièrement, on a fermé un hôtel social dans le 18e arrondissement, et donc les personnes sont à l'intérieur, on les sort de Paris. Alors, certains disent que c'est parce qu'on est en train de faire le ménage pour les JO, il faut place nette, en quelque sorte, à Paris. Ailleurs, c'est pour enlever les délinquants et les trafiquants de drogue, là, c'est pour enlever ceux qui font peut-être... qui correspondent pas à l'image qu'on veut donner de la capitale, une image Émilie in Paris. Et puis quand on interroge les autorités, ils disent c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir avec les JO, c'est une meilleure répartition notamment d'immigrants. C'est une, d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait annoncé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut pas tout concentrer sur la capitale et qu'il y a des villes où il y a des places d'hébergement qui sont vacantes et donc on peut accueillir ces gens et mieux répartir en quelque sorte la misère. Alors qui a raison, qui a tort? Elina, qui travaille auprès de ces populations, qu'est-ce que tu constates?
Alors notre gouvernement évidemment ne nous le dira jamais, mais c'est un nettoyage social. Moi, je suis pas contre. Par exemple, quand un demandeur d'asile a eu sa demande d'asile, vivre à Orléans, à Marseille, enfin, ça change pas grand-chose pour lui. Tout est à construire. Mais le problème, quand ils font le nettoyage social de Paris, dernièrement, je suis allé au squat en Seine-Saint-Denis. Le problème, alors j'en veux pas aux médias, hein, parce que les médias, ils font pas du terrain comme moi, ils rencontrent pas les gens. Mais en fait, là où il y avait 400 personnes, dans les médias, on dit il y a 400 personnes migrantes. Non, il y a de tout. Moi, j'ai vu des mamans avec des enfants, j'ai vu des gens qui travaillaient, qui étaient en CDI. Et là, mais il y a même pas tu montes dans le bus, point barre.
Même ceux qui travaillent sur place.
Voilà. Et en fait, il n'y a pas que des personnes migrantes. Il y en a, attention, hein, je ne vous dis pas l'inverse.
En fait,
il y a moins que des migrants dans les squats.
Voilà. Et il peut même y avoir des personnes...
Âgés.
Avec des enfants qui sont scolarisés dans l'école du
foie. Voilà. Il peut y avoir aussi des jeunes gamins de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Il y a de tout. Et ce qui m'embête vraiment beaucoup, c'est que vous vous rendez compte, il y a des personnes qui sont en pleine démarche administrative. C'est déjà compliqué, les démarches administratives. Tu me diras pas l'inverse, Zora.
C'est vrai.
Et qui se retrouvent, dans une ville. Mais il y en a qui sont déjà revenus. Alors moi, j'ai parlé à des personnes qui sont vraiment des personnes migrantes. Ils m'ont dit, mais tu sais, Elina, moi, ça m'est égal d'aller vivre à Bordeaux, à Besançon ou à Saint-Nazaire, mais à condition que j'ai un boulot et un logement. Parce que, oula, ils mentent encore le gouvernement, c'est que c'est des sas. Vous savez ce que c'est des sas? Enfin, Zora, toi,
tu sais autant.
C'est un passage, tu te rends compte? Ça veut dire qu'en fait...
Il n'y a pas de stabilité qui est construite.
Voilà, mais attends... Il n'y
a pas des places vides facilement dans ces villes-là.
Non, mais attends, il y a des villes aussi où se passent les JO. Hein. Ça, faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc, mais c'est saturé de partout.
Et donc, toi, tu penses que c'est vraiment lié aux Jeux Olympiques?
Bien sûr. Et moi, ce que je regrette... Et là, par contre, bon, Utopia 56, on peut dire tout ce qu'ils veulent. On peut dire plein de choses sur eux. Parce que moi, vous imaginez bien, vous savez très bien le travail que je fais. Moi, je suis censé être force de proposition, que ce soit au gouvernement Macron ou à la région Île-de-France. J'ai perdu le fil de... Ah oui, ça y est. C'est que moi, j'arrête pas de dire aux associations, Fondation Abbé Pierre, Aurore, la Croix-Rouge, je peux en oublier, hein, Secours Populaire, enfin toutes les grosses associations qui sont gérées évidemment par l'État, voire même le SAMU social pour lequel j'interviens. Moi, j'ai mis, qu'est-ce qui vous empêche tous de vous réunir et dire non, on ne le fera pas? Ah mais non, Elina, mais non, Elina, on est comment dire, coincé à cause de subventions.
Voilà.
Eh ben moi, je suis pas d'accord. Oui. Je suis pas d'accord.
Parce que ça veut du dire coup, que moi, c'est demain... ces assos qui organisent le départ des gens.
Bah, eux, ils disent oui. Alors, par contre, ils le disent tous. Alors, ils le disent pas à la télé. Ils comptent sur moi pour que je le dise. Ça, je peux vous le dire. Hein. Ils sont très contents que je le dise. Même il y a des gens au gouvernement.
Parce que t'as pas les mêmes intérêts qu'eux et t'as pas les mêmes enjeux qu'eux.
Ah ben bah ça, eh ben bah c'est pour ça que je veux être électron libre, moi. Parce que si je vais aux grandes gueules et que je peux plus dire ce que je veux, ben bah ça sert à rien que je vienne ici. Et t'inquiète pas, là, il y en a qui m'écoutent. Il y a plein d'assos. Ils sont ravis parce que toutes les associations sont outrées par ce qui se passe.
Oui, mais...
En plus,
oui,
attends, il y a eu un taux d'expulsion là à la trêve hivernale qui est énorme en 2024, il va encore empirer. Et ça, toutes les assos le savent.
Mais là, Aïlina, excuse-moi, mais là, tu pointes un dysfonctionnement énorme. C'est-à-dire qu'en France, on a délégué la question des sans-domicile fixe et la question des migrants à des associations.
Ils sont pas très politisés.
Voilà. Et tu es en train de nous dire que pour des raisons financières et pour des raisons de dépendance vis-à-vis de l'État, quel qu'il soit, ces associations sont obligées de fermer les yeux sur leur mission principale, qui est de lutter contre le sans-abrisme. Et donc, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que les gens qui donnent à ces associations, les gens qui comptent sur ces associations, les gens qui font semblant de s'indigner de ce qui se passe, eh ben, on est en train de se rendre compte que la chaîne associative humaniste et de droits de l'homme qui est censée protéger ces populations, et ben finalement livre ces populations à des décisions qui finalement met en péril toute la question de la lutte contre le sans-abrisme. Et ça, ça pose un problème. Parce que moi, je suis assez favorable à ce que on prenne la question à bras-le-corps et qu'on permette à des gens d'aller vivre un petit peu partout sur le territoire, à condition qu'il y ait un cahier des charges qui englobe à la fois l'accompagnement en démarches administratives, à la fois l'insertion et à la fois la formation professionnelle ou l'employabilité ou la mise en emploi.
Le français aussi.
Donc si le gouvernement est capable de nous dire voilà ce que lorsque l'on extrait quelqu'un d'un squat ou d'une situation de sans-abri, voilà ce que l'itinéraire qu'on lui propose, moi ça me pose, comme tu dis, pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, tu es en train de dire qu'on va prendre 400 personnes dans un squat, qu'on leur demande tous de monter dans un car et qu'on leur dit même pas où ils vont et qu'on va les jeter dans des des sas, c'est-à-dire des solutions pansements provisoires, voilà. Et qu'après on verra ce qu'on en fait. Et le problème, il est pour tout comme ça. Et le problème, c'est le problème des migrants, le problème du droit d'asile, le problème des OQTF, tout est comme ça.
Ouais, parce que moi, j'ai écouté un témoignage, alors je me rappelle plus si c'est le maire de Blois ou d'Orléans, là, il y a plus d'un mois déjà.
C'est Orléans.
Qui disait, il y a plus d'un mois, depuis début février, on m'en envoie un bus de 50 par semaine. Et lui, ce qu'il disait, c'est que c'était pas forcément des migrants, c'était des...
Oui, il y a de tout.
Mais c'était
tout.
Pas forcément des migrants, et il y avait aucune place qui était capable de les accueillir.
Évidemment.
Quoi. Et le discours officiel du gouvernement, c'est un gros mensonge sur le fait, du gouvernement ou de la région ou de la mairie de Paris d'ailleurs. Je sais pas qui a un discours officiel là-dessus, mais c'est un gros mensonge sur le fait d'invoquer la répartition géographique des migrants. Parce que, un, c'est pas que des migrants, et deux, les villes dans lesquelles on pose le bus, il y a pas, et les mecs, ils sont pas informés en amont. Le maire d'Orléans qui témoignait, il dit, moi, j'ai commencé par interroger la préfecture se fait imposer 50 mecs par semaine ou par mois, je sais plus. Mais sans savoir quoi en faire, quoi.
Bah évidemment.
Et à un moment donné, dire officiellement, c'est de la répartition géographique, c'est de la foutaise.
Non, mais ce qu'aurait pu être entendable, Didier.
Je peux croire.
Oui, mais
croire qu'il y a de la répartition géographique à faire.
Mais ce que tu mets dedans, c'est important.
Mais à la fois, avant, il faut avoir vérifié que c'est des gens qui sont en situation d'immigration légale.
Mais
non,
oui,
mais qui sont éligibles à l'immigration, quoi. Il y a d'abord ça à vérifier. Et après, oui, vérifier quels sont les métiers en tension, de quoi on a besoin. Et après, moi, je peux concevoir la répartition géographique.
Utopia,
moi, je vis dans des campagnes qui sont en train de crever. Et du coup, remettre des gens dans les campagnes qui sont en train de mourir, refaire vivre des villages, des écoles, avec des gens qui savent faire un vrai métier, pourquoi pas?
Mais
c'est pas du tout ce qui est en train de se passer.
Didier, il a raison.
On les met dans des grandes villes, on l'impose au maire, on l'impose au préfet, et ils ont aucune solution pour les héberger.
Le préfet, il écoute ce que dit monsieur le ministre de l'Intérieur.
Il l'impose.
Il y a un élément qui plaide pour, effectivement, le nettoyage social, c'est quand on ferme un hôtel dans le 18e arrondissement. On sait bien qu'on a besoin de places de chambres pour les JO, et donc, effectivement, il faut vider certains hôtels.
Sauf que les chiffres des hôteliers
pour les JO, ils se plaignent parce que le taux de remplissage pour l'instant n'est qu'à 65% et ça commence à les inquiéter sérieusement.
Ce matin, le gars qui m'a amené ici en moto-taxi, il dit parce que les JO arrivent, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Tous les gens qui font des réunions, on va dire hebdomadaires ou sur Paris, ils disent à partir de bientôt, on va plus monter à Paris parce que avec les JO, ça va être le bordel, ça va coûter cher de s'héberger, les transports et machin. Et voilà. Et globalement, la perspective des JO est en train de créer une baisse économique sur les lieux et autour des sites.
Je vais vous donner un
autre exemple. Et là, puis je vais donner la parole.
Okay.
Tu vois, il y a une association qui a témoigné de campements qui avaient été démantelés, de gens qui étaient montés dans des bus et qui sont ensuite partis vers Rennes, Strasbourg,
Rennes,
Bordeaux. La moitié, en fait, ont juste 3 semaines d'hébergement.
Au bout des trois semaines d'hébergement,
ils sortent des lieux. Alors, pour certains, ceux qui ont, si tu veux, des papiers, des formulaires qui sont en cours, ils retrouvent des conditions d'hébergement. Mais pour la moitié d'entre eux, en fait, on les a déplacés dans ces villes.
Quand ils arrivent dans le bus, on va savoir où ils en sont.
Je vais vous raconter une preuve que c'est du nettoyage social. Alors, vous connaissez tous à Paris, enfin tous, je pense, la rue d'Aboukir. C'est un accueil de jour pour femmes. Un accueil de jour, on n'est pas dehors. c'est un accueil, on est à l'intérieur, on boit un café, on lave son linge, enfin bon, voyez ce que je veux dire. Eh ben, ce sera fermé pendant les JO pour faire une fan zone. Non mais, ça s'appelle du nettoyage social, ça, excusez-moi. Hein.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces femmes?
Ah ben, vous décachez, vous prenez un bus, hein, comme tout le monde. Hein. Tu sais, déjà, moi, là, actuellement, j'interviens dans un hôtel à Nation qui va fermer très prochainement. Et là, je ne vais pas dire le nom de l'assaut parce que déjà, j'ai quelques soucis avec eux. Mais ils veulent plus communiquer avec moi parce que moi, j'ai dit, je vous préviens, il y a une fille dehors, vous allez m'entendre. Et là, il va fermer fin avril. Et je suis sûr qu'ils m'écoutent, là.
Non, mais en soi, c'est déjà...
C'est ça inadmissible.
Alors, tiens, c'est quand même un problème que des assauts louent des hôtels entiers. Pour coller des SDF, c'est pas ça qui est un problème.
C'est
déjà
pas des assos qui sont subventionnés par l'État. Hein.
Non mais voilà, en gros, c'est nous qui payons.
Voilà, c'est nous.
Mais c'est même un business.
On va prendre deux exemples. On va écouter Léa, qui est graphiste, qui nous appelle du 18e arrondissement parisien. Bonjour Léa.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous êtes témoin, vous aussi, dans votre arrondissement, de ce qu'on appelle le nettoyage social à l'approche des JO ou pas?
Bah, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que après le Covid et pendant le Covid, tous les petits hôtels, il y en a beaucoup dans mon quartier qui sont des 1 étoile, 2 étoiles, ils ont été transformés en hôtels sociaux. Et par exemple, moi je donne pour deux cours, et bien côté séjour, j'ai un hôtel social et côté chambre, j'ai un hôtel social. Alors celui côté chambre, ça se passe très bien, ils sont calmes et tout, et l'autre ils peuvent potentiellement être assez bruyants, mettre la musique à fond et tout ça. Franchement, c'est pénible. Après, c'est des gars, ils bossent apparemment, parce que j'ai contacté l'asso qui est hyper difficile à joindre, étonnamment.
Ah, ça m'étonne pas.
Et en fait, ils bossent, ils font des formations en boulangerie, tout ça. C'est pas des gens à problème, si vous voulez. Mais il y a, bon, je suis désolée, mais un mode de vie qui est pas adapté. Et en plus, ils sont pas chaperonnés, vous voyez. On les a placés là, et puis après, ils sont en autonomie, on dirait.
J'ai quelque chose. Voilà. Léa, attendez, je vais vous laisser après. Je vais vous dire un truc. Ça, les hôtels transformés pour accueillir pendant le Covid là, en fait, ça s'appelle des CHU. En principe, dans ces CHU, puisque moi j'interviens dans les CHU, logiquement, il y a des agents de sécurité, accueil et il y a au moins un travailleur social. Donc c'est pas normal.
Dans celui-là, il y a aucun intervenant, enfin il y a aucun normal, interlocuteur, il y a pas de réception. Et quand vous cherchez, ça c'était l'asso Interalia, elle s'appelle, quand vous cherchez un contact, vous trouvez personne.
Je vous crois.
Léa, là, puisque vous parlez de cet hôtel là, pas loin de chez vous, c'est quel type de population qui est là alors du coup?
C'est des subsahariens. Apparemment, ils viennent tous du même pays parce que ils se réunissent dès qu'il fait beau, ils se réunissent dans la cour en bas et ils parlent très fort. En fait, c'est ça le problème. Ils s'en rendent pas compte. Hein. Je pense que c'est vraiment pas pour nous emmerder, mais voilà. Et du coup, ils parlent la même langue. Et en fait,
ils sont nombreux. Combien sont-ils, Léa?
Je pense qu'ils doivent être une vingtaine. Une vingtaine, ils ont chacun. Il y a des lits superposés dans les chambres. Je crois qu'ils sont un par chambre quand même. Et voilà. Après, ils vivent leur vie et tout. Mais là, en l'occurrence, moi, les petits hôtels qui ont été transformés en hôtels sociaux dans mon quartier, c'est bizarre parce qu'on est vraiment à deux pas du Sacré-Cœur. C'est toujours des hôtels sociaux. Voilà. Après, moi, si vous voulez, je suis pas contre cette idée hein, d'accueillir les gens correctement et tout ça.
Mais c'est vrai qu'il y a
Voilà, exactement. C'est juste qu'il y a une accumulation spécifiquement dans le 18e et le nord du 9e.
Léa, bien sûr que c'est pas la question d'accueillir. C'est pas ça qu'il faut remettre en cause. C'est la défaillance de l'État depuis des décennies. Qui n'insère pas, qui n'intègre pas et qui n'accompagne pas à l'intégration sociale.
Moi, je suis pas d'accord parce que eux, vous voyez, ils ont quand même des formations, ils sont pris en charge, mais ils sont pas encadrés dans la mesure où on les lâche un peu comme ça dit pas. Ça, par exemple, ça se fait pas de mettre la musique à
dos. L'intégration sociale,
Mais pour bien intégrer Zora, il faut organiser les choses et surtout il faut fluidifier. C'est-à-dire que là, on voit bien que rien n'est contrôlé.
Parce qu'ils travaillent pour beaucoup.
Il y a pas de maîtrise dans les arrivants. C'est-à-dire qu'on subit. Oui. Donc quand on subit, on gère la petite semaine avec un logement social, avec un hôtel social. On les laisse dormir dans des conditions inimaginables dehors. Enfin, Paris maintenant, il y a des bidonvilles dans Paris. Enfin, il y a 30 ou 40 ans, ça n'existait pas. On avait nettoyé Paris parce que justement, on avait construit des logements, etc. Les bidonvilles existaient à Nanterre et autres. Mmh. Et dans les années 60, et on a tout construit. Maintenant, il y a de nouveau des bidonvilles. Et on nous explique que c'est formidable et que voilà, et c'est normal. Et que, écoute, on accueille les gens. Enfin. Et on
est dans une ville de gauche.
Ce que dit Léa.
Qui gère cette ville donne des leçons matin, midi et soir sur l'humanité.
Mais de quoi? Mais ce que dit Léa, elle dit effectivement que ces gens-là sont arrivés de pays subsahariens où certainement ils ont fui soit des conditions politiques, parfois l'Érythrée, enfin, pour ne citer que l'Érythrée, évidemment, c'est des conditions extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que Léa, elle remet pas en cause le fait qu'ils soient logés, elle remet en cause le fait que ils sont logés, ils travaillent effectivement, ils font des formations, ils occupent des emplois, donc ça c'est très bien, mais qu'en fait ils sont pas accompagnés dans leur vie sociale. Il y a pas une volonté d'intégration. Ça pose problème.
Léa, on va écouter un autre témoignage. Léa, je propose de rester avec nous, c'est celui de Cyril qui est à Paris, qui est directeur dans la restauration. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Vous vouliez intervenir dans notre discussion, vous aussi, sur ce que constate Elina, le nettoyage social. Qu'est-ce que vous en dites, Cyril? Qu'en dites-vous, alors?
Tout d'abord, j'étais très content de ce que venait de dire Olivier. C'est vrai que Paris est devenu vraiment, pour moi, un bidonville. Moi, j'habite Porte-de-Saint-Ouen, donc dans un quartier populaire depuis 20-25 ans. J'y suis très bien. Si j'y suis depuis 20 ans, c'est pas pour rien. Mmh. C'est que j'aime, justement, le mélange ethnique et tout ça. Maintenant, c'est devenu depuis, on va dire 5 ans, une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des tentes avec des migrants qui, pour moi, n'ont rien à faire. Des tentes sur les métros, partout. Il y a eu à un moment donné un migrant qui avait une tente et qui se grattait tout le temps et qui avait plein d'immondices autour de lui. On sentait bien qu'il était...
Ouais, mais là, il y a la maladie psychiatrique derrière. Là, ça, j'en suis sûr.
Oui, je veux bien le croire, mais le problème, c'est qu'on...
Mais il faut le prendre en main.
Bah oui. Nous, les habitants, on est en train de subir tout ça.
Pourquoi les habitants doivent subir ça, en fait?
Oui.
Et pourtant,
attendez, laissez-y dire Cyril. Allez-y, Cyril, pardon.
Le problème, c'est que nous, en tant que Parisiens, en tant qu'habitants, on passe à côté de tout ça et ça devient insupportable. C'est-à-dire que moi, j'habite dans des quartiers populaires, j'ai aucun problème avec tout ça. Maintenant, avec ça, j'ai un problème. Mais justement, je trouve que on laisse tout faire. C'est-à-dire que moi, je vois des gens avec des tentes, avec des matelas par terre, avec c'est dégueulasse de partout. Personne ne fait rien. Ou de temps en temps, il y a quelque chose, mais deux jours après, ils reviennent.
Remarquez que ces tentes, ces bidonvilles, c'est uniquement dans l'Est parisien, le Nord parisien, c'est-à-dire les quartiers entre guillemets populaire. Camp populaire, mais je dis entre guillemets populaire parce que il y a plus vraiment de quartiers populaires à Paris vu le prix du logement. Mais c'est vrai que vous les voyez pas près des ministères, etc. Parce que au bout de deux minutes, ils seraient délogés. Donc il y a aussi une complaisance, c'est-à-dire qu'on se dit oui bon allez, on laisse ça dans le Nord de Paris, dans les quartiers plus populaires entre guillemets, et finalement on sont voilà la colline du crack.
Mais Cyril, il dit bien que la diversité, Cyril, ça l'a jamais gêné. Ce qui le gêne, c'est la saleté.
Mais Cyril, comment ça? C'est sale, c'est sale. Vous pouvez même pas vous imaginer. Enfin, si vous imaginez, mais parce que Cyril, vous êtes à Paris même, et vous le voyez très bien.
Bien sûr, mais ça va même au-delà maintenant, parce que pour tous ceux qui viennent sur Paris, qui arrivent par le sud, l'autoroute A6, ou qui arrivent par Orly. Alors là, maintenant, il y a un truc qui s'est installé, c'est-à-dire sur les côtés du périphérique. Oui. Vous avez des cabanes.
Oui, j'ai vu.
Je sais pas si vous l'avez vu.
Oui, j'ai vu comme les bidonvilles qu'on avait avant nous.
Si vous arrivez vers Paris maintenant, vous arrivez par Orly, jetez un coup d'œil si vous voulez voir la famille, vous installez dans Paris.
Ça ressemble à l'entrée d'Oulan-Bator.
Sur les côtés, effectivement, du périphérique. Je sais pas si vous l'avez vu, Cyril. Hein. Ouais, vous avez des mini cabanes en dur avec des caddies, avec des tables. Et vous dites, mais c'est incroyable. Et c'est là. Et c'est là depuis des semaines et des mois. Allez-y, Cyril, pardon.
Et les favelas.
Je voulais rajouter quelque chose. Je sais que c'est pas politiquement correct ce qu'on dit actuellement. Maintenant, vous le dites, c'est vraiment super parce que c'est assez rare sur les télés d'entendre ce genre de discours, parce que c'est toujours mieux de dire oui, il faut faire attention à ces gens-là, machin, truc. Bien sûr, il faut faire attention à ces gens-là, on est tous des humains et je préférais qu'ils soient installés correctement et ainsi de suite.
Bien sûr.
Maintenant, pourquoi nous, les habitants, les gens, les Parisiens, tout simplement, pourquoi on a à subir tout ça, en fait? Je sais pas, c'est quoi le but? Le but, c'est que Paris soit de plus en plus sale, qu'il y ait de plus en plus de bordel partout, d'immondices.
Mais c'est la bien-pensance de la gestion, ça, monsieur.
Attends, monsieur, je voudrais vous dire quelque chose.
La compétence.
En tout cas, vous savez que vous avez tout à fait raison. Même moi, vous savez, je vois des trucs là où j'habite. C'est ignoble. Mais en tout cas, logiquement, et là, je trouve pas ça normal, que des maraudes ne passent pas, surtout si vous me dites que le monsieur, il arrête pas de se gratter, il peut en donner des poux, des puces à tout le monde.
Oui, c'est,
si
la c'est gale, ça. Sûrement.
Mais par contre, vous êtes en droit d'appeler la mairie et d'être en colère à la mairie de Saint-Ouen pour dire, écoutez, nous, on n'a pas à subir ça, faites passer la protection civile ou une maraude X.
C'est quelle mairie? Vous êtes dans quel arrondissement, déjà?
Alors, c'est le côté 17e, c'est-à-dire c'est la porte de Saint-Ouen, c'est pile poil entre D'accord. Saint-Ouen et je suis encore à Paris.
Mais vous êtes en droit d'appeler la mairie.
Mais du coup, vous attends, parce que toi, tu fais des maraudes. Oui. Parce que là, je voyais ton écusson Paris-Seine. Tu fais des maraudes le long de la Seine.
Des maraudes nautiques.
Avec la protection civile.
Avec la protection civile, parce qu'il faut savoir, on n'en parle jamais, mais il y a énormément de sans-abri qui travaillent, qui sont en CDI et qui vivent sous les ponts. Donc, on ne peut pas les abandonner. Et ils travaillent, il y en a qui ont des CDI, il y en a qui travaillent en intérim, il y a des petites familles, il y en a qui ont des enfants, ils emmènent les enfants à l'école le matin. Enfin, c'est une vraie vie sous les ponts. Et j'ai découvert ça.
Merci de ce témoignage. Merci à Léa et à Cyril d'avoir été avec nous. Bonne journée Léa et Cyril, merci d'avoir été dans les GG. À bientôt pour continuer de discuter au 32-16. Dans un instant, le GG 7 et match, on va évoquer Mathilde Panot, la présidente du groupe France Insoumise. Vous savez, à l'Assemblée nationale, elle est convoquée pour apologie du terrorisme. Est-ce qu'à votre avis, c'est justifié? Oui pour Zora et Didier, non pour Elina et Olivier. Et on vous attend au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, c'est tous les jours avec vous. La première heure des GG est passée et vous pouvez d'ores et déjà la retrouver en podcast sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous allez sur l'onglet des GG et puis vous allez ensuite sur les podcasts. Et puis sur les podcasts, vous retrouvez aussi tous les petits indiscrets, ce que vous n'entendez pas et ce que vous ne voyez pas pendant la pub.
Vous saurez tout, notamment sur l'histoire, la genèse de la moustache de Didier Giraud.
C'est ça.
C'est la moustache la plus connue de France.
On va rien dévoiler. Parce que c'est
que les gosses, ils adorent jouer avec.
Ah, ça m'étonne pas, ça.
Les petits gamins de.
Avec
de
ta moustache.
Ouais, de.
Quand tu prends tes douches nues, c'est ça?
Il faut couper là.
Comment s'appelle le remplaçant?
Je plaisante. Je recoupais deux informations. Tout à l'heure, il nous parlait de ses douches nues.
Au foot?
Bah, parce que toi, tu te douches habillé, gros malin. Moi, je me douche nu.
Je t'embête. Je te taquille.
C'est bon, du coup, sur ma moustache.
Il veut pas dire qu'il voudrait te voir nu.
Les gosses d'1 an et 2 ans, tu vois, ils adorent les.
Mais oui.
Mais c'est vrai qu'elle n'est, quand tu arrives au GG, elle n'était pas aussi fournie.
Oui.
Alors,
il a grandi.
Que va-t-il se passer jusqu'à midi dans les GG, dans les grandes gueules? Tout à l'heure, à 11h20, on évoquera ce qui s'est passé. Là, j'en appelle au témoignage des enseignants, des profs, parce qu'on évoquera ce qui s'est passé au Collège Bellevue de Toulouse, où l'enseignant faisait remarquer à un élève de 14 ans qu'il était plutôt dissipé, qui perturbait la classe. L'élève s'est levé, il lui a collé 4 baffes. A collé 4 baffes à l'enseignant. Et ensuite, il s'en est vanté sur les réseaux sociaux en disant « Mais attendez, je vais le fumer, l'enseignant. »
Sur TikTok.
Et alors, heureusement, il a été interpellé. Le gamin, il a été placé en garde à vue. Le recteur s'est saisi de l'affaire. Bref, on reparlera de ça. Est-ce que c'est vraiment des cas isolés ou pas? On y reviendra tout à l'heure à 11h20. En attendant, on va évoquer ce qui se passe avec la France Insoumise. C'est le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Parce qu'après Rima Hassan, c'est au tour de Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, de se retrouver convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Alors du côté de la France Insoumise, on dénonce une tentative de censure politique. Qu'est-ce qui est en cause? En cause, c'est le communiqué qui avait été publié par le groupe parlementaire le jour des attaques du Hamas, peu de temps après, le 7 octobre. Et dans ce communiqué, la France Insoumise met en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme une offensive armée des forces palestiniennes par rapport à l'intensification de la politique de répression et d'occupation israélienne. Alors, apologie du terrorisme. Est-ce que cette convocation de Madame Panot est justifiée? Oui ou non? Oui pour Zora et Didier, non pour Elina et Olivier. Vous venez nous dire dans quel camp vous êtes au 32-16, bien sûr. Ma chère Zora, pourquoi est-ce que c'est justifié? Tu as 60 secondes.
Alors, on reprend le communiqué du 7 octobre qui dit très clairement « L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza. » Deux choses. Première chose, il a nié le caractère terroriste, la férocité et la brutalité du Hamas ce jour-là. Deuxièmement, Gaza n'est pas occupée depuis 2005. Troisièmement, la Jérusalem a été réunifiée en 1967 et depuis 1967, la totalité des gens ont accès à Jérusalem, quel que soit leur culte. Donc déjà, il y a un, le déni de l'attaque terroriste du le pogrom du 7 octobre et deux, justifié par des mensonges. Donc ça pose réellement problème en dehors du fait de la judiciarisation
le débat est sur ça.
Non, c'est pas un débat. Quand tu mens et quand tu considères qu'une organisation terroriste qualifiée comme terroriste par les États-Unis et l'Europe, ce n'est juste qu'une attaque offensive armée. D'une armée, ça commence à poser un réel problème.
Réponse. Elina.
Ben, écoute, bon, je te cache pas, j'ai pas toutes les références qu'a, je vais pas mentir, hein, je vais pas faire l'intelligente, hein, qu'a Azora. Mais moi, pour moi, c'est politique parce que, enfin, je veux dire par là, c'est la France insoumise en, soit on prend la France insoumise en entier, mais pourquoi, Mathilde Panot? Moi, je sais qu'il y a de nombreux citoyens qui ont été, en garde à vue pour la même raison. Est-ce qu'on en a parlé dans les médias? Non. Donc, moi, pour moi, c'est un truc politique. C'est politisé, tout ça.
C'est comme si, Elina, c'est comme si je disais que l'attaque du Bataclan, des Kouachi Koulibaly, c'est une offensive qui arrive dans un contexte d'islamophobie et de publication des caricatures de Charlie Hebdo. Oh bah, je fais la même chose.
Eh bien, moi, je pense que tu dois avoir le droit de le dire, même si c'est du grand n'importe quoi. Je vais terminer. Parce que, en fait, tu confonds deux choses, le fond et cette judiciarisation du débat politique. On peut très bien penser qu'effectivement, les insoumis sont très ambigus avec le Hamas, et le mot ambigu est faible, qu'ils sont très ambigus avec l'antisémitisme, et le mot est faible, et en même temps, laisser le débat politique se faire sans que les juges nous explique ce qu'on a droit de dire ou pas dire. Là, on est en train de judiciariser le débat politique, c'est très grave, parce que ça va se retourner un jour contre tout le monde, contre toi, Zora. Un jour, tu seras convoqué dans un commissariat parce que tu auras dit quelque chose dans les grandes gueules, et ça finira comme ça. On le voit bien, on a déjà nous-mêmes, ici même, dans les grandes gueules, une chape de plomb, on est surveillé, on est signalé, et dans toutes les émissions de débat, c'est comme ça maintenant, parce que on veut, à tout prix, un peu à l'américaine, que tout soit judiciarisé. Il y a des avocats qui sont derrière, des associations. Il y a visiblement des juges qui ont du temps à perdre et un commissariat qui convoque Mathilde Panot. Sincèrement, Mathilde Panot, on peut penser ce qu'elle veut, mais ce qu'on en veut, mais elle n'a rien à faire dans un commissariat, dans un débat politique. Dans le commissariat, il faut mettre les délinquants.
Où je suis pas d'accord avec toi, Olivier, c'est que, à la rigueur, lire un communiqué de presse, aussi informant soit-il, dans l'hémicycle, c'est du débat politique. À partir du moment où Mathilde Panot et les autres se mettent à tweeter, c'est plus du débat politique, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, la
quelle
sphère.
Quelle est la différence?
Hein?
Quelle est la différence, en fait?
Bah, parce que t'as une parole publique. Quand
mais il y a eu du débat sur ce communiqué de presse, il avait déclenché une polémique dingue.
Mais oui.
Souviens-toi, donc le débat a eu lieu.
Mais je pense qu'on a besoin qu'on mette des limites.
On a besoin derrière de poursuites judiciaires.
Bah, je pense que quand tu commences à expliquer.
Sur quelle base, d'ailleurs?
Que quand tu commences à expliquer sur Twitter aux gens que le Hamas, c'est des résistants, ça doit passer devant la justice.
Mais
quoi.
Non.
Mais si,
mais
ça
non.
doit passer devant la justice.
Mais non.
Parce que si tu l'es,
ça change
si tu...
rien.
Ben, je
la
suis
justice
désolé.
A pas condamné Mathilde Panot parce que ils ont pas dit que le Hamas était terroriste.
Alors là où
ben,
c'est
j'en sais rien.
Là, entre le fond, entre
non points.
Mais entre le fond de l'idée politique qui est véhiculée et cette propagande.
Mais c'est pas une idée politique
attends,
en plus.
Attends, et cette propagande permanente sous couvert d'antisémitisme qui ne dit pas son nom sous couvert d'antisionisme. Il y a effectivement la question à se poser de on ne peut pas combattre qu'avec des lois. Même si je suis dans ce camp-là, je suis assez d'accord sur la forme que décrit Olivier. Il n'empêche que ça pose un réel problème aujourd'hui de cette liberté d'expression qui est que le délit, l'antisémitisme est un délit et qu'en fait il est travesti et il est tellement travesti que finalement les gens arrivent à être antisémites en t'expliquant.
Que ça soit un délit.
Là, voilà. Elle n'est pas convoquée pour antisémitisme.
Mais bien sûr,
voilà.
Bien sûr. Mais sauf que
les deux se rejoignent pas, Olivier.
Si on se réfère strictement à ce que c'est que l'apologie du terrorisme, y a-t-il apologie du terrorisme?
Le fait de. si tu veux, le fait de qualifier une organisation terroriste comme une armée, somme toute, comme régulière, les autres, Tzahal est une armée, nous avons une armée, en Europe il y a des armées, l'organisation Hamas n'est pas une armée régulière.
Non, mais il y aurait eu apologie du terrorisme si Mathilde Panot avait dit bravo au Hamas,
voilà,
bravo à cet acte de résistance. Certains l'ont dit,
ah oui,
et ces gens-là sont poursuivis,
oui, oui, oui,
et on a raison de les poursuivre.
Ils se comptent plus résistants.
Non, mais, quoi, mais non, mais pardon, dans le communiqué, il n'est pas dit bravo au Hamas.
Enfin, l'opportunité nous est donnée quand même de rappeler que dans ce texte, à la fois où elle décrit le Hamas comme une offensive armée,
régulière,
ensuite qu'elle argumente avec des
mais
mensonges.
Pas, elle va y répondre, hein.
En dehors de la judiciarisation, en dehors de la judiciarisation, raconter à ses électeurs et raconter aux Français que Gaza est occupé est un grand mensonge.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, on va mettre beaucoup de.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Non, en prison,
j'ai dit en dehors que... de. J'ai dit en mais, dehors de la
oui,
judiciarisation.
C'est là où Zora, on va ouvrir une porte, et à mon avis, c'est une mauvaise porte.
Pendant.
C'est-à-dire que si on commence à vouloir convoquer dans un commissariat, à chaque fois qu'un responsable politique dit un mensonge, dans ce cas-là, si je pousse le bouchon un peu loin, lorsque le ministre de l'économie prévoit tel déficit et que ce déficit,
alors,
finalement,
Olivier,
est double, nous allons mettre Bruno
répondre,
Le Maire dans un commissariat.
On va tout mettre sur le même plan.
Attendez, voilà, laisse-moi te répondre. Lorsque Bruno Le Maire ment, lorsque un tel ment, ça n'a. Attendez, l'antisémitisme, lorsqu'il est couvert de mensonges, il tue. Et lorsque l'on met 400 000 personnes en danger en France en racontant matin, midi et soir, dans son rôle de député, en tweetant H24, clairement, que sur le problème palestinien, en
c'est
mettant
la
à la septième position une femme qui ne porte que le sujet de Palestine sur une élection qui est européenne, oui, ça n'a pas du tout le même impact qu'un ministre de l'économie qui ment.
Eh bien, ça y est, la discussion est partie. Mathilde Panot, convoquée pour apologie du terrorisme, justifiée ou pas, on vous attend au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.